souvent, tu finis ton sport et tu te dis, ben moi, j'étais juste un joueur de foot. Mais être juste un joueur de foot, c'est justement, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, de faire un lien entre l'effort, la récompense. Les gens sont beaucoup plus outillés pour la suite des choses qu'ils le pensent vraiment.
Jean-Antoine Sinnott est chroniqueur sportif et membre de la famille Salut Bonjour.
La deuxième saison où j'ai été nommé sur l'équipe des Étoiles canadiennes et athlète de l'année à McGill, en 8 matchs, j'ai capté 72 passes. C'était fou, là. C'était spécial. Je vivais quelque chose que je n'avais jamais vécu. Là, j'étais devenu un joueur clé, mais dans une équipe qui ne gagnait pas. Mais tout ça, pour moi, ça a été un apprentissage incroyable.
Les coachs, c'est des enseignants du football. Est-ce que, selon toi, c'est un skills que ben, les meilleurs coachs ont?
T'as pas coaché tant qu'ils n'ont pas compris. N'importe quel ancien athlète, tu te demandes c'est qui l'entraîneur qui a eu le plus grand impact sur toi, ben, c'est celui qui voulait transformer une vie, pas juste transformer un scoreboard.
On dit souvent que la RSEQ, c'est une ligue à deux équipes. J'aimerais t'entendre là-dessus avec la vision que t'as en tant que chroniqueur, quelqu'un qui suit ça depuis très longtemps, qui a joué au sport. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, je suis très excité. J'ai la chance d'avoir en studio. Écoute, aujourd'hui, je pense qu'on peut l'appeler un peu la tête du football universitaire à la télévision. En tout cas, Charles-Antoine Sinnott, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. C'est très apprécié, man. J'ai vraiment hâte qu'on discute aujourd'hui. Ouais, merci man, d'avoir accepté.
Ben, merci de l'invitation. C'est toujours le fun de pouvoir jaser de foot universitaire en plus avec un produit du foot universitaire, donc je te remercie à toi là, de m'avoir tendu la perche.
C'est très apprécié. Comme à l'habitude, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Charles-Antoine, voici ton intro. Charles-Antoine Sinnott, t'es chroniqueur sportif et membre de la famille Salut Bonjour. T'es originaire de Trois-Rivières, c'est à 11 ans que tu fais tes débuts au football. Après tes années d'études au secondaire, tu décides de porter les couleurs du Diablos du Cégep de Trois-Rivières, avec lesquelles tu vas soulever un bol d'or. À l'université de 2006 à 2011, tu décides de porter l'uniforme des Redmen de l'Université McGill. Durant ces années, tu vas être nommé athlète de l'année, tous sports confondus. En plus d'être capitaine de l'équipe, tu fais partie des équipes étoiles universitaires. À la fin de ta carrière universitaire, tu entres dans l'histoire du football, avec le plus grand nombre de passes captées en une saison et en carrière. C'est en Europe que tu décides d'aller finir ta carrière de joueur avec les Centaures de Grenoble, une équipe de Division 1. Aujourd'hui, tu es reconnu comme être la tête du football universitaire au Québec. Charles-Antoine Sinnott, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. En faisant un peu de recherche, j'ai remarqué que ben, le sport, en fait, ça ressemble... Ben, ça fait hyper longtemps dans ta vie que tu en fais, depuis 11 ans. Puis je sais, je te suis en ce moment, tu continues à en faire tout le temps, tu te tiens en forme. À 11 ans, qu'est-ce qui t'a décidé de partir dans le football?
C'est une excellente question. J'avais joué au hockey, au soccer quand j'étais tout jeune. Le sport a toujours fait partie de ma vie, de ma tête. Ma mère, qui est très, très artistique, m'avait proposé à un moment de jouer du violon. Puis j'avais répondu en disant « Est-ce que c'est un sport, ça, le violon? » Elle m'avait dit non, donc j'avais décidé de laisser faire le violon. Donc j'ai comme toujours été attiré vers le sport. En secondaire 1, au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, ben, à l'époque, c'était comme le début du football, là, le football académique. Tu pouvais seulement commencer en première année de secondaire. Donc, je me souviens d'avoir vu un attrapé d'un receveur des Steelers de Pittsburgh avant d'avoir débuté le football, puis d'avoir eu comme une illumination, une révélation. Je voulais absolument tenter ma chance. Mon père était un gros, gros fan de foot. C'était un fan des Bills de Buffalo. J'ai grandi en regardant Doug Flutie évoluer comme corps arrière avec les Bills de Buffalo. Donc, il y a comme toujours eu un peu de football autour de moi. Puis quand j'ai commencé cette première journée-là au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, j'ai su que c'était mon sport. J'ai délaissé toutes les autres disciplines. J'ai joué à Québec au séminaire Saint-François également parce que ma famille a déménagé à Québec. Quand je suis revenu à Trois-Rivières, j'étais convaincu que je voulais que ce soit mon sport. Donc, j'ai complété mon secondaire en sport-études à l'Académie des Estacades. Donc ça fait longtemps qu'on dirait que je sais que qu'il y a quelque chose entre moi et le football. Puis je suis tellement content que ce sport-là fasse encore partie de mon quotidien 20 ans plus tard.
Non, sérieux, c'est vraiment cool. Et j'espère que ton père est encore un bon fan des Buffalo Bills parce qu'en tout cas, en ce moment, ils ont tout le temps des bonnes saisons.
Exact. Ben, écoute, il mériterait un Super Bowl. Là. Lui a vécu les 4 défaites en 4 ans consécutifs au Super Bowl des Bills à l'époque. J'ai acheté un chandail de Thurman Thomas à Noël là, il y a 2 ans. Donc, il porte ça. Il écoute les Bills actuels avec le chandail de son porteur préféré à l'époque. Mais ouais, je te dirais qu'il serait dû pour un peu de champagne à la fin de la saison de foot.
Très cool. Est-ce que toi, t'en as une équipe préférée?
Non, j'ai jamais vraiment eu d'équipe. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été attiré par des joueurs. Tu sais, bon, il y a eu les Bills de Buffalo avec Doug Flutie. C'était l'histoire Doug Flutie qui était comme un peu les négligés. Puis il se faisait toujours tasser par Rob Johnson, qui était le carrière blond. Prototype américain qu'on avait donné, à qui on avait donné des millions. Donc ça a été comme ma première histoire que j'ai suivie au football. Puis après ça, ben, je suis tombé en amour avec Randy Moss, probablement ben lui qui m'a eu qui a le plus gros impact sur mon amour de la position de receveur de passe. Mais en même temps, il y avait Michael Vick à Virginia Tech. Je me souviens d'avoir vu le bowl entre Virginia Tech puis Florida State. Peter Warwick, c'était la grosse vedette comme receveur de Florida State. Puis Michael Vick, ben, il changeait la game à l'époque. Donc après ça, je l'ai suivi avec les Falcons d'Atlanta. Donc j'ai toujours aimé les Falcons, les Vikings, parce que bon, justement, Randy Moss, Dante Culpepper, Chris Carter. Mais j'ai pas de chandail, j'ai pas de. Il n'y a pas une équipe que j'écoute le dimanche. Peut-être aussi parce que c'est devenu un peu ma job, mon travail. J'ai été pendant 4 ans, je pense, à l'analyse des matchs du jeu du soir de la NFL, à TVA Sport. Donc à partir du moment que c'est devenu mon travail, on dirait que j'ai perdu un peu ce sentiment d'appartenance-là, puis, tu sais, c'était plus peut-être une neutralité. Fait que non, pour longue réponse, t'as dit que j'ai pas nécessairement une équipe, mais tu sais, comme je te dis, j'espère que les Bills vont gagner bientôt.
Mais non, je comprends ça. Le fait de la neutralité, c'est sûr que quand ça fait partie du métier, c'est sûr que quand tu tombes plus dans l'analyse, je peux comprendre. Mais c'est le fun comment tu l'as amené, parce que tu sais, moi, personnellement, à chaque fois, les gens me demandent ça aussi. Je sais jamais quoi répondre parce que je suis un peu comme toi. J'aime juste le sport en général. J'aime regarder ça. Je veux une bonne game. T'sais, moi, c'est ce que je veux. Puis, moi, dans le temps, mettons, tu m'as demandé c'était qui mon équipe. Je t'aurais dit, hey, c'est les Packers, man, parce que c'était Aaron Rodgers et tout. Mais, Clay Matthews, tout ça, c'était des. Je tripais sur cette équipe-là dans le temps. Mais, tu sais, aujourd'hui, je pourrais même pas dire si j'ai une équipe préférée. J'aime juste le sport. Puis,
ouais, c'est 100%.
C'est le but, c'est d'avoir du bon football. En parlant de bon football, t'es allé à Trois-Rivières. T'as joué pour les Diablos. Pourquoi t'as choisi les Diablos? Je sais que c'est chez toi quand même. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que c'est aussi dans le temps que les Diablos, c'était le head coach, c'était dans ces années-là? C'était qui déjà le head coach dans ces années-là? C'était
Martin Cotto. Qui est décédé malheureusement l'an passé. D'ailleurs, dans les dernières semaines, on s'est rendu toute la gang des anciens Diablos à Trois-Rivières. Le terrain porte maintenant son nom, donc ils ont souligné l'apport qu'il y a eu au programme. Puis, c'est vraiment pas pour te corriger, mais à l'époque, on a gagné 3 bolards. En fait, j'ai gagné 3 bolards en 3 ans. Donc, c'était vraiment les belles années des Diablos. Ils en ont même gagné un 4e l'année où je suis parti pour McGill. Donc, à l'époque, c'était quand même une référence en deuxième division. J'ai toujours, puis écoute, on pourrait avoir la discussion avec d'autres intervenants, mais moi, j'ai toujours cru que au niveau collégial, à tout le moins, quand tu étais bien servi dans ta région, je ne vois pas toujours la nécessité de quitter. Je pense que tu vas quitter éventuellement pour aller jouer universitaire. Puis tout le monde a des réalités différentes, là, évidemment. Fait que je suis qui pour juger, mais moi, je trouve que comme il y a on est tellement bien servi par quoi 27 cégeps ou 28 là, qui offrent des programmes de football. J'ai jamais eu le désir de quitter. Évidemment, c'était une époque où est-ce qu'il y avait moins de recrutement, qu'il y avait moins d'entraîneurs à temps plein et le programme chez nous était vraiment solide. Donc, j'ai fait partie des Diablos dans ces années-là puis on a gagné le bol d'or 3 années de suite.
Ben, tu fais bien de me corriger parce que, tu sais, 3 ans, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, quand je faisais la recherche, ta bio, justement, c'est que il avait mentionné que tu avais gagné le bol d'or. Puis, il y avait une partie qu'il disait, c'était un peu, peut-être la façon comment c'était écrit, je l'avais mal compris, mais qui était marqué que c'était 3 années de suite ou je sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait une façon qu'il l'avait écrit que j'étais comme, je suis pas sûr, je vais être conservateur, je vais en marquer une fois. Mais merci de m'encourager là-dessus, c'est vraiment cool. 3 bols d'or. En parlant de bol d'or, est-ce que ça fait trop longtemps? As-tu des histoires de ces bols d'or-là qui t'ont marqué peut-être? Qu'est-ce que tu as appris? Je sais que tu sais, le cégep, comme moi, pour ma part, c'est un moment qui m'a forgé. Tu sais, on arrive là, on a 17 ans, on sort de là, t'es dans la vingtaine, tu commences à être un adulte, tu t'en vas pour certains marchés du travail, pour d'autres universitaires. Toi, comment ça t'a marqué, cette époque-là?
Ben, y a des histoires que je pourrais pas te raconter parce que...
T'es pas le seul qui me sort ça, là.
Ça fait partie du folklore, mais il y en a une qui me vient en tête qui implique une piscine du cégep, des conduits de ventilation en pleine nuit, mais justement, j'irai pas plus loin que ça. Non, c'est les plus... Tu sais, ma gang de chums, mes meilleurs amis encore aujourd'hui, c'est mes coéquipiers au Diablos. On s'est rejoints ensemble dans un moment quand même charnière de nos vies, tu l'as dit. C'est une transition où est-ce que il y en a qui ont 16, 17, d'autres ont 19, 20. Tu es à différents stades de ta vie. Ouais, c'est la première. Pour moi, ça a été vraiment ma première école de vie. Tu apprends le lien entre l'effort et la récompense. Tu apprends le lien entre un travail d'équipe, l'abnégation, le fait de côtoyer des gens qui viennent de partout. Tu sais, puis c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que le football, c'était la meilleure micro-société dans le monde du sport. Tu sais, t'es tellement nombreux. Il y a des gens de toute morphologie, de toute classe sociale qui viennent ensemble, qui apprennent à se connaître, à se respecter. Puis ça, c'est une leçon de vie incroyable parce que après ça, c'est ça. Tout au long de ta vie dans la société, bien, tout le monde est différent. Tout le monde a une façon de réfléchir qui est différente. Mais lorsque tu démontres assez d'ouverture pour travailler ensemble, ben, tu accomplis des grandes choses. Fait que nous, ça avait été ça à l'époque. Il y a eu trois types de saisons. Il y a une saison où on a été invaincus, c'était incroyable, 8-0, domination complète. Mais il y a eu aussi une saison où est-ce qu'on était 4-6 après 10 matchs de saison régulière. Puis on a tourné complètement la destinée de l'équipe en éliminatoire. Donc ouais, ça a été vraiment une école de vie incroyable. Puis tout ce que j'ai de plus solide comme éthique de travail, comme comportement, comme façon d'aborder les choses, c'est sûr que ça s'est construit à partir de mes années collégiales.
Mm-hmm. Par la suite, c'était les Redmen.
Mm-hmm.
Dans ces années-là, ça ressemblait à quoi le recrutement? Est-ce que, parce que, tu sais, c'est sûr que tu as joué là 2006 à 2011. Fait que, tu sais, on avait Laval qui était... Encore un jeune programme, mais qui commençait à devenir quand même une force. Tu avais Montréal, bien sûr, Concordia qui était là. Est-ce que Sherbrooke est arrivé dans ces années-là? Je me souviens plus.
Ouais. Ouais, les trois programmes francophones commençaient à se distancer des autres. Moi, tu vois, pour te donner une référence, aux gens, moi, je suis arrivé à McGill quand Jean-Philippe Soiré est arrivé comme carrière à Sherbrooke. Donc, okay. Ça a été quand même Samuel Giguère aussi qui a joué pour les Colts, les Giants. C'est dans mes années, Simon Charbonneau-Campeau qui a battu tout plein de records, qui a joué pro. Donc, Sherbrooke allait très, très bien. Les Carabins aussi, c'est les années de retransonné de Marc-Olivier Brouillette comme carrière. Puis à Laval, ben, c'était les années de Ben Grou. Ben Grou est arrivé une année avant moi, Sébastien Lévesque. Puis, ben écoute, c'est drôle parce qu'à McGill, ça a été le début de la fin. Bon, la fin est terminée, là, puis le programme est en reconstruction. C'est admirable ce qui se passe en ce moment.
Ouais.
Mais moi, tu sais, un des éléments qui a fait basculer le programme, outre la montée des programmes francophones, parce qu'à l'époque, McGill, c'était un programme qui recrutait très, très fort les francophones au Québec. La plupart des grands joueurs de ce programme-là venaient du Québec. Donc, c'est sûr que le bassin s'est dilué. Puis au même moment, bien, il y a eu le scandale d'initiation. Mais moi, c'était l'année juste avant moi. Donc, je suis arrivé littéralement l'année après le scandale d'initiation. Le scandale qui a mis fin à la saison, qui a vraiment coupé les jambes du programme. Donc, j'ai été là dans les années les plus difficiles du programme. Mais moi, il y a toujours eu beaucoup d'anciens Diablos encore aujourd'hui à McGill. Fait que moi, je connaissais bien des gars de Trois-Rivières qui étaient dans le programme de McGill qui m'ont expliqué ce qui s'était vraiment passé dans ce scandale d'initiation qui a pris des proportions énormes alors que... Puis là, faut revenir en arrière, là, on parle de 2005. Là, c'était une initiation comme il y en avait partout au Québec, dans n'importe quel programme sportif. C'est plus le cas aujourd'hui, puis c'est correct, on a évolué sur le sujet. Mais à McGill, ce qui s'était passé à l'époque, c'était pas pire qu'ailleurs. Il n'y a jamais eu c'était Dr. Broom, puis le ballet, puis ça s'est jamais vraiment passé, mais c'est pas comme ça que c'est sorti dans les médias. T'sais. Tout ça pour dire que malgré ce scandale-là, moi, je n'étais pas effrayé d'aller à McGill. J'avais été recruté par le Rouge et Or, par les Carabins. J'ai visité les deux programmes. Je suis allé en visite à Sherbrooke. Les Gators aussi m'avaient approché. Mais il y avait quelque chose avec McGill. Ça a été long de prendre ma décision, mais c'était la première équipe McGill qui m'a recruté. J'adorais l'entraîneur-chef Chuck McMahon, qui est un ancien coordonnateur offensif dans la CFL. Il y avait un excellent carrière, un des meilleurs de tous les temps, Matt Connell. Donc, j'ai joué avec lui pendant 3 ans. Puis, fait que je suis allé à McGill, ça a été vraiment difficile. Au début, c'était moins pire parce qu'il restait des vétérans qui avaient été recrutés avant le scandale. Mais c'est clair qu'il y a eu des années de vache maigre de recrutement. J'ai connu du 08, 09. Ça a été vraiment catastrophique. Collectivement, tu l'as dit, moi, individuellement, avant d'arriver à McGill, je n'avais jamais été un joueur étoile, jamais été capitaine d'équipe. Tu sais, j'étais un joueur adéquat, mais je n'avais jamais comme brillé. Puis là, tout a comme cliqué au même moment. J'étais partant à mon premier match. Le livre de jeu était quand même vraiment complexe. C'est un livre de jeu de la CFL. Puis à l'époque, ben, ramène-toi en 2006, c'était pas la même évolution stratégique, le foot. Puis moi, j'ai adoré le volet stratégique. On dirait que j'ai cliqué avec l'entraîneur-chef. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'opportunités. On lançait le ballon 60, 70 fois par match,
Aïe, aïe.
souvent dans des causes perdantes. C'est ce qui m'a permis de parler des records. Ma deuxième saison où j'ai été nommé sur l'équipe d'étoiles all-canadiennes puis athlète de l'année à McGill. En 8 matchs, j'ai capté 72 passes. C'était fou, là. Comme dans ma carrière
Aïe.
collégiale à l'époque, peut-être qu'en 3 saisons, j'avais capté 30 passes, mais là, en 8 matchs, j'en avais capté 72. J'ai eu un match de 18 passes captées, un match de 16 passes captées, un match de 15, puis 2 matchs de 13. On me lançait le ballon tout le temps. C'était fou. Fait que c'était spécial. Je vivais quelque chose que j'avais jamais vécu. C'est-à-dire être comme sous les projecteurs, être un joueur clé de l'équipe, nommé capitaine d'équipe. J'avais jamais vécu ça, mais là, je gagnais plus, on gagnait plus du tout. Alors qu'au Cégep, c'était l'inverse. J'avais gagné 3 bols d'or en étant un joueur correct, un joueur partant, mais pas. Là, j'étais devenu un joueur clé, mais dans une équipe qui gagnait pas. Mais tout ça, pour moi, ça a été un apprentissage incroyable qui a changé ma vie. Je retournerai jamais en arrière, je ne ferai rien différemment. J'ai adoré mes années à McGill, même si le programme. Tu sais, je se cherchais, j'ai tout aimé. Tu sais, tu pars, moi, je suis Trois-Rivières, mais à la base, je suis Cap-la-Madeleine. Fait que, tu sais, c'est un petit village. Je parlais pas vraiment anglais. Ça m'a ouvert les portes sur plein de choses. Probablement que je fais mon métier aujourd'hui à la télé parce que j'étais allé à McGill puis parce que j'étais un des seuls francophones qui était mis de l'avant à une époque difficile. Tu sais.
C'est quand même fou, j'étais pas au courant de ce fameux scandale-là. Sûr que c'est vraiment pas dans mes années, là, t'sais, moi j'ai 22, là, fait que t'sais, en 2006, j'avais 4 ans, là, fait que j'étais pas au courant de ça, là. Mais est-ce que c'est une des raisons pourquoi que t'sais, un peu McGill a eu de la misère jusqu'à là aujourd'hui, t'es en grosse reconstruction, puis t'sais, on a vu des bons progrès dans les dernières années, là, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu dis qui a vraiment affecté le programme ou?
Ben, je pense pas que tu puisses analyser ça en silo. C'est une des causes, assurément, parce qu'à partir de ce moment-là, un peu pour sauver sa réputation internationale, sa réputation académique, t'sais, McGill, c'est une marque très, très forte qui résonne partout dans le monde. Puis là, ben, la marque ou le bouclier était comme percé par un scandale qui était très négatif. Donc, l'université, rapidement, s'est dégagée de ça. Elle a annulé la saison sans vraiment aller au fond du dossier. Donc, c'est clair qu'il s'est créé une distance entre le programme de football et entre l'université. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, tu perds ta carte de visite numéro un, tu sais, parce que la réalité, c'est que dans le processus de vente qui est le recrutement, ben, lorsque tu es capable de transmettre la valeur académique, puis que le jeune est réceptif et ses parents, parce que, tu sais, toutes les universités au Québec offrent un superbe rendement académique, là, vraiment, tous les choix sont bons, on est choyé, on a des bonnes universités sportives, mais aussi académiques. Mais reste que McGill, là, tu peux aller à Bangkok, tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Europe. Les gens connaissent McGill, ça vaut quelque chose. Ça permet de côtoyer parmi l'élite mondiale. T'sais, moi, je joue au foot à tous les jours contre le weak side corner. Ben, il est agent de Connor Bedard aujourd'hui. Mais
Aïe.
j'ai des fonds. La marque Frank & Oak, une marque de vêtements, a été fondée par un de mes anciens coéquipiers. J'ai joué avec Laurent Duvernay-Tardif, qui est comme un des noms qui rayonne le plus à l'international. Tu as des prix Nobel. Ça vaut tellement cher, ça, que si tu n'es pas en mesure de bien le vendre parce qu'il y a eu une situation problématique, une controverse, ben c'est clair que tu perds ta première carte de visite qui, depuis, a été rapatriée. T'sais, maintenant, l'université travaille vraiment mieux avec le programme de football. Le recrutement fait en sorte qu'on peut cibler les meilleurs étudiants athlètes. Puis dans certains cas, des jeunes qui, au cégep, se sont peut-être un peu égarés, qui ne sont pas catastrophiques à l'école. L'université va dire « Parfait, je suis prêt à en endosser 2, 3, 4 par année qui peuvent changer la donne sur le terrain. » En autant qu'ils nous prouvent pendant la première année à l'école que ben, c'était une erreur de parcours, le cégep, académiquement, mm-hmm. mais qu'ils vont maintenir une moyenne. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire parce que il y a quand même des jeunes qui méritent d'avoir une chance académique, d'autant plus que tu vas faire rayonner le programme. D'une autre façon, tu vas faire rayonner l'université. Donc, je pense que la façon qu'on utilise maintenant est vraiment solide. Donc, à l'époque, ça a fait très, très mal à ça. Mm-hmm. Puis, par exemple, si début 2000, si tu mets McGill et Laval au même niveau, ben, pendant que McGill s'est mis à régresser, Laval a progressé à une vitesse folle. Les Carabins ont suivi tranquillement, maintenant sont petits. Donc, le gap s'est créé dans les deux directions. Donc, c'est en grande partie ce qui explique pourquoi ça a été difficile. C'est que ça a été difficile à McGill, puis les autres étaient à une autre vitesse. Ouais, ça a été long avant qu'il y ait autant d'entraîneurs à temps plein, tout ça. Donc, c'est un peu ça qui résume la situation, selon moi.
Mm-hmm. Puis après ça, t'es juste en mode rattrapage, fait que ouais. C'est compliqué. Puis tu sais, j'ai parlé avec Alex Surprenant, justement, puis il était venu sur le podcast, il m'avait dit ça, tu m'as dit, les études, les notes, ça devrait pas être une excuse pour revenir à McGill. Il dit, on a la preuve, on a recruté 52 gars cette année. Il dit, tu sais, ces gars-là, il y avait toutes des notes différentes, tout ça, mais ça devrait pas être une excuse parce que tu peux pas venir à McGill. Il dit, tu peux avoir de l'éducation qui est reconnue partout dans le monde, comme tu dis. Fait que, tu sais, puis l'affaire qu'il m'a dit aussi, c'est que, tu sais, probablement que si t'as pas les notes, puis même si des fois ça apporte dans l'air, t'es pas capable de rentrer, c'est parce que t'es pas fait pour juste venir dans le programme, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est une affaire qui m'avait souligné, que j'ai trouvé hyper intéressant. T'as parlé que, tu sais, t'étais devant, tu sais, les spotlights un peu durant tes saisons, tu t'attrapais énormément de passes, tu avais eu un rôle assez important. C'est quoi que t'as vraiment appris? T'as dit que t'as beaucoup appris de ça. C'est quoi que t'as appris, que t'as ressorti des fameuses leçons de ces saisons-là avec McGill?
Mm-hmm. Ben, collectivement, j'ai appris la résilience. J'ai pris le mandat qui me venait naturellement à l'époque, même si j'avais jamais fait ça, de tirer avec moi le monde vers le haut, parce qu'il y en a plusieurs qui abandonnaient rapidement. Tu sais, c'était difficile, là. On se faisait battre parfois par 5 ans. Souvent, l'abandon arrivait en début de match, arrivait en début de saison, puis après ça, ben, tu sais, quand tu perds un peu le lien collectif dans l'équipe parce que là, les gars, ils jouent pour eux-mêmes, puis tu baisses ton niveau de sérieux, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Fait que moi, pendant 5 ans, j'ai essayé en tout cas de travailler fort pour garder les gens tissés serrés, faire des initiatives pour pallier au fait que ben, on avait peut-être plus autant d'argent, qu'on avait peut-être moins de soutien. Fait que je sais pas, j'ai eu le goût d'aider le collectif quand j'étais là. Ça m'a permis de développer des attributs justement qui m'aident aujourd'hui. Tu sais, je travaille en équipe, là, la télé, ça ressemble drôlement au football du fait que ben, tu sais, il y a quelques personnes qui sont devant la caméra, mais il y en a tellement derrière qu'on ne voit pas. Tu sais, comme au foot, là, tu peux même pogner 18 passes, mais tu as besoin de ta ligne à l'attaque, tu as besoin de ton personnel de soutien, tes entraîneurs. Fait que j'évolue dans un milieu qui me rappelle beaucoup, beaucoup le football. Donc, d'avoir eu un rôle de leadership à l'époque, ça m'a aidé beaucoup à développer ces qualités-là. Puis, tu vois, individuellement parlant, puis il y a un lien à faire encore une fois, ben, j'ai appris à gérer le stress, à gérer la pression, à performer dans un moment X, tu sais, parce que quand tu te fais viser 20 fois par match, ben, il faut que tu livres la marchandise. Puis, je suis devenu très, très exigeant avec moi-même. Exigeant pendant leur season, tu sais, j'ai pas manqué un seul entraînement pendant 5 ans, j'étais dévoué, dédié. Puis tu vois, aujourd'hui, ben, je travaille quand même sous pression. Tu sais, mon travail est en direct. Fait que, tu sais, c'est la même chose. Quand la lumière rouge de la caméra allume, c'est là que je dois livrer. J'aurais pas nécessairement une deuxième chance, puis une troisième chance. C'est un milieu qui a pas nécessairement de filet de secours, que tu dois performer. Si tu performes pas, il y a quelqu'un qui veut ta job, comme dans le sport. Fait que je pense que ça aussi, individuellement, ces années-là m'ont formé à ce que je fais aujourd'hui. En ce que moi, dans ma tête, je fais beaucoup, beaucoup de liens entre les défis que j'avais à l'époque et les défis que j'ai aujourd'hui.
Ouais, comme quoi le sport, tu sais, les leçons que tu apprends dans le sport t'aident à te forger à devenir la personne que tu deviens aujourd'hui. T'sais. C'est ça qui est vraiment beau. Puis c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'au moins bouger et de pratiquer un sport qui peut te permettre de te challenger dans la vie. Mm-hmm.
Ben moi, je me suis rendu compte, puis j'essaie de le dire aux jeunes, que je, ben aux jeunes, aux gars que je côtoie là, au football universitaire qui arrivent en fin de stage universitaire. Tu sais, quand tu es dans un vestiaire, qui est dans un milieu de sport de haut niveau, ben, tu côtoies des gens qui te ressemblent. En tout cas, des gens qui vivent la même réalité que toi. Donc, ça devient ta réalité. Quand tu arrives dans le marché, sur le milieu du travail, le marché du travail, après, tu te rends compte rapidement que la majorité des êtres humains n'a pas nécessairement eu à vivre des grands moments de stress, n'a pas nécessairement eu à travailler en équipe avec des grandes équipes, n'a pas nécessairement eu à faire preuve de résilience, de capacité d'adaptation. Alors que toi, ben, c'est ce qu'on t'a appris. Parce que souvent, tu finis ton sport et tu dis ben, « moi, j'étais juste un joueur de foot ». Mais être juste un joueur de foot, c'est justement, c'est quelqu'un qui est capable de communiquer, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, de faire un lien entre l'effort, la récompense. Donc, les gens sont beaucoup plus outillés pour la suite des choses qu'ils le pensent vraiment en étant dans un milieu de sport à 24/7. Ben, c'est ça la vraie vie. Tu te rends compte vite que c'est pas ça la vraie vie, mais que tu as une préparation qui te distingue des autres.
Non, effectivement, j'aurais pas pu mieux le dire. C'est vraiment bon comment tu l'amènes. La Ligue canadienne, ça n'a pas fonctionné pour toi? Tu as décidé d'aller en Europe?
Ben, tu vois, c'était quand le foot s'est mis à bien aller individuellement, c'est devenu un objectif. J'ai eu comment ça fonctionnait le combine. Il n'y avait pas de combine régional à l'époque. Il y avait seulement une liste de 50 qui invitait les 50 meilleurs joueurs au combine. À Toronto, donc c'était 3 jours, c'était centralisé à Toronto. Puis j'avais été invité, donc je faisais partie des 50 qui ont été invités. J'étais pas un gros gars de test, j'étais pas un athlète exceptionnel. Quand je jouais, j'avais vraiment la même shape qu'aujourd'hui, là, 6 pieds, 183 dans une bonne journée. mes tests étaient vraiment. J'ai bûché comme un fou. Là. J'ai pas de regrets par rapport à ça parce que j'aurais pas pu en faire plus pour me préparer. Mais j'ai couru un 4-8-2 à Toronto, je pesais 180 livres. J'avais pas des gros tests, je jouais pas sur les unités spéciales. Ben, en fait, j'étais punter parce qu'à McGill, on n'avait pas de batteur, mais on s'entend que c'est pas pour ça que tu peux repêcher. Fait que, somme toute, j'étais content de ma fin de semaine à Toronto. J'avais été solide dans les one-on-one en gagnant toute la portion football. Puis là, ben, au repêchage, j'ai pas été sélectionné, j'ai pas eu d'appel. Fait que ça a été la plus grosse déception de ma vie à ce moment-là, c'est clair. Je suis retourné faire ma dernière année à l'université, j'ai fini mon bac, puis je suis parti jouer en France. J'ai signé un contrat avec les Centaures de Grenoble. Je savais que c'était ma dernière année de foot, puis ça a été probablement les 6 ou 7 plus beaux mois de ma vie en France. C'était incroyable là, comment c'était une belle expérience. J'étais comme signé pour être joueur-entraîneur. Il n'y avait pas une centaine d'entraîneurs. Ouais, puis ils m'avaient embauché comme receveur de passe puis coordonnateur offensif. Il m'avait demandé si j'avais déjà joué QB. J'avais dit oui en exagérant ou en amplifiant mon dossier, mais j'avais juste joué carrière, genre Benjamin dans le temps où est-ce qu'il fallait que tu fasses une passe par série. Puis je suis arrivé là, puis la deuxième journée, le carrière français, il s'est blessé. Donc, je suis devenu carrière. Et j'ai fait toute la saison comme carrière, qui était ma dernière de foot. Fait que c'était malade. Là, je devenais coordonnateur offensif. Je gérais le caucus. J'avais mes rendez-vous à la ligne de mêlée. Je redécouvrais mon sport. Puis l'histoire est quand même intéressante parce qu'en Europe, c'est des systèmes de relégation-promotion, comme au soccer. Donc, si tu gagnes la deuxième division, l'année suivante, tu es en première division. Fait que l'équipe, les Centaures de Grenoble, arrivaient en première division. C'était la première saison après avoir gagné le D2. Fait que, tu sais, les attentes étaient ultra faibles. Il y a des gros programmes en France, là, le Flash de Courneuve, Thonon-les-Bains notamment, qui ont des gros budgets. Nous, bah, on arrivait, on était comme la petite équipe de rien. Puis c'était finalement, en tout cas, longue histoire courte, on s'est rendu en finale nationale. On a fini deuxième, donc on a accueilli une demi-finale devant 8000 personnes dans le stade de rugby à Grenoble. Puis tu sais, 8000, dit comme ça, c'est pas énorme, mais considérant qu'à la première game, il y avait 80 personnes dans cette strade, dans un petit parc de Grenoble, c'était fou, là, les gars, ils comprenaient pas. Il y avait 8000 personnes dans le plus gros stade de la ville, parce que le rugby est très, très fort à Grenoble. On a gagné la demi-finale. On s'est rendu au troisième plus grand stade de Paris, Charletti. Il y avait 10 000 personnes. On s'est fait éclater en finale. Mais tu sais, c'était la première fois de l'histoire du football français avec une équipe qui était à sa première année en D1, se rendait en grande finale. Fait que ça a été hallucinant ce qu'on a vécu comme émotion. Puis on a joué 13 matchs parce qu'on s'est rendu en finale. Fait que c'est le plus grand nombre de matchs sur 7 mois. Fait que j'ai eu le temps de voyager. Là, quand tu es étudiant à l'université, tu voyages pas. Là, tu travailles l'été pour pas travailler pendant le foot. Puis tu ramasses de l'argent quand tu peux. Fait que là, on voyageait une semaine sur deux. Il n'y avait pas toujours des matchs, il n'y avait pas toujours de l'entraînement. Fait que je suis allé en Suisse, en Espagne, en Italie. Je suis allé partout en France. J'étais avec un de mes coéquipiers de McGill. Donc, les deux, on avait été signés. On faisait 1 000 euros en dessous de la table par mois. C'est ce qui était là. Bon, c'était 1 300 $ par mois, mais logé, nourri. Il y avait à tous les jours dans un restaurant, le restaurateur nous mettait une assiette devant nous. On mangeait au resto chaque midi.
Ah, c'est quand
On
même
avait
cool.
une voiture payée, le gym, tout ça. Fait que j'ai vécu le rêve, j'ai trippé bien raide. Puis quand j'étais à Grenoble, tu peux re-signer. Il m'avait proposé de revenir pour l'hiver suivant. Mais j'ai été accepté à la maîtrise à McGill. Donc,
Ah,
je
très
suis revenu
cool.
à McGill pour poursuivre mes études. Puis je me suis mis à coacher au foot avec les Redmen, justement.
En parlant de tes études, justement, ton bac, tu le fais en enseignement, c'est ce que je
Ouais.
comprends. Puis ensuite, tu étudies en psychologie du sport. Ouais. J'ai question pour toi là-dessus. J'ai vu ta chronique que tu as fait sur le coaching 101. OK? Parce que tu m'as dit que tu viens de me dire que tu as coaché à McGill. Puis tu sais, on dit souvent que les coachs, c'est des enseignants du football, tu sais. J'ai plusieurs coachs, justement, sur le podcast qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, tu sais, moi, comment je vois ma job, c'est comme être un enseignant et non un coach. Je pense que c'est important. Est-ce que, selon toi, c'est un skills que les meilleurs coachs ont?
Ben, tu sais, le principe le plus important pour répondre à ta question, pour moi, c'est une citation, un nom de livre de John Wooden, qui est cité dans la chronique que tu mentionnes. Tu n'as pas coaché tant qu'ils n'ont pas compris. You haven't taught until they've learned. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'entraîneurs qui mettent ça de l'avant. Parce que tu peux savoir. Peu importe, tu peux être une encyclopédie de foot, tu peux être une bible de ton sport, tu peux avoir toutes les connaissances tactiques, historiques de ton sport dans ta tête. Si tu n'es pas capable de l'expliquer puis que les jeunes ne sont pas capables de le maîtriser, ben, tu ne fais pas ta job. Fait que c'est clair que la pédagogie est essentielle parce que tu dois transformer ce que tu as dans ta tête, ce que toi tu comprends, en quelque chose qui est digeste pour les jeunes. On est chanceux, on est privilégié au football parce que c'est un sport académique. Donc, dans les plus bas niveaux, c'est quand même fréquent que ce sont des entraîneurs qui vont, qui, des enseignants qui vont entraîner, donc qui maîtrisent la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est une science. C'est une science qui a été prouvée, démontrée. Si tu vas dans mes études, ben, c'est ce que j'ai appris, la littérature scientifique, tu sais, sur comment transmettre des connaissances, comment construire un exercice, comment construire un entraînement, comment construire un plan de pratique, comment justement que le corps fonctionne, comment le cerveau fait des liens dans son processus d'apprentissage. Fait que c'est clair que ça fait toute la différence. Puis je suis convaincu que tu parles à n'importe qui, n'importe quel ancien athlète, puis tu demandes c'est qui l'entraîneur qui a eu le plus grand impact sur toi. Ben, c'est probablement pas celui qui pouvait te décortiquer le cover four, les différents packages de pression. C'est celui qui carait le plus par rapport à toi. Lui qui voulait vraiment avoir un plus grand impact sur l'humain avant l'athlète, qui voulait transformer une vie, pas juste transformer un scoreboard. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est la qualité principale de n'importe quel entraîneur à n'importe quel niveau, c'est d'être pédagogue, parce que si le jeune ne comprend pas, ben, ça ne sert à rien tout ce que tu dis.
Non, exact. J'aime ça comment tu l'amènes. Tu sais, ça me fait un peu penser de. Tu sais, c'est pas de. Tu sais, c'est d'enseigner un peu la prochaine génération, veut pas. Donc, tu sais, c'est leur. Tu sais, tantôt, on parlait de. T'sais, le sport, ça te forge à devenir la personne que t'es. Ben, c'est un peu le même principe. C'est vrai que les coachs que tu te souviens, au bout du compte, c'est les coachs qui ont vraiment voulu créer une relation avec toi, t'sais, une relation avec le joueur. Puis, il y a un autre point que les coachs me sortaient souvent aussi, c'est le coaching a beaucoup évolué. Puis, ils me disaient que t'sais, maintenant, quand tu coaches les joueurs, ils demandent tout le temps pourquoi. Pourquoi on fait ça? Puis, dans ta chronique, tu l'amènes, tu dis que c'est important d'expliquer l'exercice, de pourquoi on fait l'exercice, parce qu'il faut que les athlètes comprennent, faut qu'ils comprennent le pourquoi pour ensuite le faire puis l'appliquer. Je suis curieux d'entendre là-dessus, parce que tu sais, les coachs, un peu sans le savoir, ils m'en ont parlé, puis après ça, je vois ça, puis tu m'en parles. Intéressant.
Ben, tu sais, encore une fois, si on se base sur la science du sport, puis tous les articles scientifiques, puis là, quand je parle de ça, là, je parle pas d'un scientifique en sarrau, là, tu sais, qui avec avec ces formules chimiques. Là. Tu sais, moi, ma maîtrise en psychologie sportive, on a fait un mémoire de maîtrise. Je suis allé à la rencontre de 6 assistants entraîneurs, les 6 meilleurs, là, selon un paquet de critères, dans le football universitaire canadien à l'époque. Puis on les a interviewés avec un guide d'entrevue là, vraiment solide, étoffé. On a transcrit leurs réponses. On a décodé tout ce qu'ils mentionnaient. Puis on a prouvé, ou en tout cas, on a démontré c'était quoi les tendances. C'est ça la littérature scientifique, c'est de parler aux experts, d'essayer de comprendre ce qu'ils ont en commun. Et un des éléments les plus importants dans l'apprentissage, les gens connaissent souvent le principe du 10 000 heures d'expertise. Ça prend 10 000 heures pour devenir un expert. Mais quand tu lis vraiment cette approche théorique-là, ce n'est pas 10 000 heures pour 10 000 heures. Ce n'est pas juste d'accumuler des heures, c'est 10 000 heures de pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est une pratique qui est intentionnelle, où est-ce qu'il y a une réflexion puis une compréhension. Ça veut dire que pendant 10 000 heures d'entraînement, oui, tu vas faire des exercices, mais tu vas réfléchir en même temps. Et ce que ça fait, c'est que ton cerveau est tellement impliqué que tu crées des connexions neuronales qui sont multiples. Au lieu de juste faire un truc sans arrêt, parce qu'il y en a des entraîneurs qui font bon, on fait un drill de compte, puis fais-les. Oui, ton corps l'apprivoise. Mais pour vraiment avoir des souvenirs, une compréhension kinesthétique, il faut que ton cerveau fasse des liens à tout moment. Mais pour faire des liens, il faut qu'il réfléchisse. Pour réfléchir, il faut que, comme entraîneur, comme pédagogue, il faut que tu l'interroges. Il faut que tu l'amènes à réfléchir. D'où d'avoir une logique derrière ce que tu fais. Fait que c'est clair que ça fait toute la différence. Ça fait une tentacule dans ton cerveau. Tu sais. Puis ça fait que ben, en temps réel, dans un match, inconsciemment, ton corps va faire des choses qu'il a appris. Mm-hmm. Le plus important quand tu es coach, là, c'est que ton jeune réussisse à automatiser les mouvements. Que les mouvements soient instinctifs. Mais pour que ce soit le cas, il faut que ça soit compris, il faut que ça soit maîtrisé, il faut que le corps les fasse en temps réel. Si tu es toujours, imagine là, tes corps arrière. Puis là, tu décortiques ton mouvement à chaque fois. OK, il faut que je plante le pied arrière, plante le pied avant, il faut que j'ouvre une rotation des hanches, il faut que le ballon soit en zero position, il faut que je déplie mon coude. Tu as 12 risques de te tromper parce que tu as 12 éléments dans ton mouvement. Il faut que ce soit un seul mouvement qui est automatisé. Puis pour ça, faut que tu réfléchisses dans le processus d'apprentissage.
Mm-hmm. C'est comme c'est de créer des associations dans le coaching. Puis c'est ça, après ça, c'est d'avoir des reps. Puis une fois que tu as bien compris, ça crée du muscle memory.
Exact. C'est tout à fait ça.
Mm-hmm. Non, c'est vraiment cool. Je suis curieux de savoir la maîtrise que tu as fait en psychologie sportive. C'est quoi que tu as. En fait, c'est quoi exactement que tu as appris dans cette maîtrise-là? J'ai l'impression que c'est tellement large. Tu as plus travaillé sur le coaching, est-ce que je comprends?
Oui, le projet de recherche, le projet de maîtrise était sur le coaching, mais j'avais quand même une charte de cours, psychologie du sport, l'histoire du sport, tout ça. J'ai appris sur la visualisation, sur la gestion du stress, sur le développement du leadership, toutes des choses que j'ai mentionnées qui sont des sciences, vraiment quelles sont les théories. Mais tu vois, un des éléments clés au centre de la recherche sur le coaching, puis ça aussi, ça s'applique pour toutes les organisations, toutes les équipes, que ce soit des équipes sportives ou des équipes de travail, n'importe quoi. Un des éléments qui est fondamental, c'est la vision ou la philosophie. On peut appeler ça comme on veut. Tout le monde parle de ça. C'est quoi notre philosophie d'équipe? Mais ce qui est encore plus important que la vision d'une équipe, c'est comment elle est développée puis comment qu'elle est implantée. Parce que c'est facile pour un coach de dire, voici c'est quoi ma vision d'équipe. On l'applique. Là, ça ne devient plus la vision de l'équipe. C'est la vision du coach pour l'équipe. Encore une fois, machinalement ou automatiquement, les joueurs et les assistants-entraîneurs vont dire, on va faire ce qu'il dit. Mais si tu veux avoir vraiment un impact sur un groupe, sur un vestiaire, il faut que tu les interroges, il faut que tu leur poses des questions. Bon, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Selon vous, là, comment on doit construire notre équipe? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Tu poses des questions, tu récoltes les connaissances, puis après, tu construis la vision. Donc, oui, comme entraîneur-chef, tu as le dernier mot, puis c'est toi qui vas l'appliquer. Mm-hmm. Il faut que tu ailles chercher l'information. Comme ça, tu impliques les gens dans le processus. Puis là, ils se sentent responsabilisés. Puis quand après ça, tu leur représentes la fameuse vision que tu as développée, ils vont dire, « Hey, ben, écoutez, ouais, c'est vrai, ça fait partie de ce que j'ai partagé. » Puis là, ensemble avec les assistants-entraîneurs que tu auras aussi interrogé, tu vas l'implanter. Tu as bien plus de chances que tes adjoints, tes assistants fassent partie du groupe, fassent partie du mouvement au lieu de juste faire ce que le boss a dit. La vision d'équipe est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est que tout le monde participe à la confection, à la réflexion, puis ensuite à l'implantation d'une équipe Puis là, tu as des vraies chances d'avoir un vestiaire qui transcende. On les voit, ces équipes-là, il y a quelque chose de magique. Là, on sent qu'il y a une unité. Mm-hmm. C'est pas de la magie. Il y a quelqu'un qui a travaillé fort pour construire quelque chose qui vient à se matérialiser pendant la saison.
Hyper intéressant. Hyper intéressant ce que tu amènes. C'est tellement un bon point. Aïe, aïe. Okay. Je suis capable de faire des liens avec plein de choses, mais même aussi avec la vie de tous les jours. Tu sais, étant dans des projets personnels ou peu importe, tes cases, c'est des choses que tu peux associer, des choses que tu peux utiliser justement pour ton futur.
Du leadership, c'est du leadership. La gestion du stress, c'est de la gestion du stress. Puis une équipe, c'est une équipe. Peu importe. Tu portes un uniforme ou tu portes un veston cravate, c'est les mêmes principes, c'est le cerveau humain, puis c'est la façon que le cerveau interagit ensemble. Mm-hmm.
Merci sérieusement d'avoir partagé ça, très pertinent. Comment t'es devenu finalement, parce que t'as pas étudié en journaliste, t'es inscrit en enseignement, t'as fait une maîtrise en psychologie, ça n'a aucun rapport avec le métier que, ben aucun rapport, tu sais, je parle... T'as pas fait les études standards, mettons, d'un journaliste. Comment t'es devenu chroniqueur sportif à la télévision et tout ça?
Ben, c'est un concours de circonstances qui revient à mes années à McGill. Tu sais. J'avais jamais rêvé, espéré, voulu faire ça. Là. Tu sais, moi, je pensais travailler dans le monde du sport. Ben, tu sais, d'ailleurs, j'ai coaché, j'ai travaillé dans les fédérations sportives au début de ma... Quand j'ai commencé à faire des médias, c'était à temps partiel. Tu sais. Fait que moi, j'étais convaincu que j'allais travailler dans le monde du sport, mais plus un peu dans le monde de la science du sport. Quand je suis revenu, en fait, quand j'étais en Europe, en France, à Grenoble, j'ai eu un appel du directeur des sports de Radio-Canada, puisqu'à l'époque, le football universitaire, les matchs de football universitaire étaient diffusés à Radio-Canada. Puis là, ben, quand McGill jouait, j'étais francophone, j'étais capitaine d'équipe, fait que c'était souvent moi qui se retrouvais à faire les entrevues à la mi-temps ou après les matchs. Fait que j'ai reçu un appel en disant hey, écoute, dès l'an prochain, on aimerait ça ajouter un panel à la mi-temps. Il y avait seulement un descripteur et un analyste. Donc, on aimerait ça ajouter un panel qui va être là avant le match à la mi-temps. Puis, on a pensé à toi comme ancien joueur. Ça te tendu. Là, qui était parfait. Fait que moi, je commençais ma maîtrise. Fait que c'était comme ma job étudiante le samedi d'aller à Concordia, à Laval, puis juste partager mon expérience d'ancien étudiant athlète. Fait que ça a commencé comme ça, puis rapidement, je me suis rendu compte à quel point j'aimais l'adrénaline, comme je te mentionnais, le fait de performer dans un moment précis, de m'être préparé toute la semaine, parce que tu sais, je récoltais de l'information, je regardais du vidéo, je me préparais comme joueur puis comme coach pour être bon en nombre. Puis rapidement, je me suis rendu compte que je me servais de plein de concepts que j'avais appris en enseignement. Parce qu'en éducation physique, tu apprends à vulgariser du sport pour une classe. Dans une classe, tu vas en avoir 5 qui vont être exceptionnels, 5 qui n'auront aucune maîtrise du sport. Puis dans le milieu, ben, tu en as qui sont à différents moyens de compréhension. Mais quand je parle à la télé, c'est exactement la même chose. Là. Je peux tant parler à la grand-maman d'un joueur qui est en Mauricie, qui ne connaît rien au football, mais qui a le goût de voir son petit garçon faire quelque chose. Ou je peux aussi parler à un entraîneur collégial qui connaît le foot autant, peut-être même plus que moi. Donc, à l'intérieur d'une phrase, de quelques secondes d'analyse, il faut que je rejoigne les deux. Puis c'est ça l'enseignement aussi. Là. Fait que je me suis rendu compte que j'avais eu des apprentissages qui m'aidaient à faire ça dans les matchs. De fil en aiguille, bien, j'ai eu de plus en plus d'opportunités. À un certain moment donné, Radio-Canada a perdu les droits du football universitaire vers TVA Sport. À TVA Sport, on m'avait déjà engagé pour faire le Thursday Night Football dans la NFL. Donc, j'avais commencé à travailler avec Denis Cazavant, qui est toujours mon collègue aujourd'hui. Donc, on avait déjà fait description et analyse ensemble de la NFL. Donc, la saison suivante, s'est ajouté le football universitaire. Mais à ce moment-là, tu sais, je faisais 2 matchs de foot par semaine. Puis, il y avait un revenu intéressant, mais c'était pas suffisant pour gagner ma vie. Fait que je faisais ça à temps partiel. Puis, à un moment, j'ai eu un appel de salut, bonjour. Quelques semaines après le Super Bowl, j'étais allé comme invité parler du Super Bowl. Puis, on me disait, on passe des gens en entrevue. Dans le domaine de la télé, ça s'appelle un screen test. On fait un test, là, on simule un segment comme si c'était en direct. Fait que, on a pensé à toi pour faire un screen test. Ça t'intéresse-tu? J'étais allé, j'avais eu le poste. Puis à partir de ce moment-là, c'est devenu ma job à temps plein. Donc, je faisais salut, bonjour, week-end. Donc, le samedi, le dimanche, les sports le matin, en plus de mes matchs de football. Puis là, de fil en aiguille, c'est ça. J'ai eu de plus en plus de mandats. Puis c'est ce qui fait que je travaille dans ce milieu-là maintenant.
Aïe, aïe, folle histoire, man. C'est vraiment cool, sérieusement. Tu parles de comment tu as commencé avec le foot, puis tu as quand même réussi à monter les échelons. Tu sais, meilleur exemple, juste avant de commencer, tu as l'appel du directeur de production pour le football. Puis tu parlais, tu sais, il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est que c'est un gros skills. C'est un énorme skills d'être devant la télé en direct où est-ce que tu dois performer puis annoncer un match de foot.
Mm-hmm.
Il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à dire. Tu sais, que ce soit, oui, quand tu as le micro, puis tu parles de... genre des chroniques, ou quand tu annonces le match aussi, là, c'est juste de parler vite. Juste ça, ouais. C'est un skill. Là. Mais je suis curieux de savoir, comment vous vous préparez pour ça? T'sais, mettons, on parle de cette saison. Là. Comment vous êtes préparé? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne évolution cette année à TVA, là, surtout pour les mm-hmm. matchs. J'ai trouvé ça vraiment cool. Comment vous vous préparez, semaine après semaine, pour les matchs?
J'avais mes feuilles pour le match. Je vais te montrer. Vérifier si j'ai mes feuilles. Non, mais je ne sais pas si je les ai encore. Si... Non, je ne les ai pas avec moi. Ben, moi, honnêtement, ma préparation ressemble drôlement à ce que je faisais comme entraîneur. Mais évidemment, là, j'ai d'autres trucs. Là, ma vraie job maintenant, ma job à temps plein, c'est salut bonjour. Mm-hmm. Donc, à chaque matin, je résume l'actualité. Donc, à chaque soir, ben, je vais écouter un match du Canadien, un match des Blue Jays, je prends des notes. Donc, c'est clair que je ne dédie pas une semaine complète au football universitaire, mais à chaque jour, pendant la semaine, ben, je fais un petit peu de ma préparation. Donc, je vais regarder, tu sais, j'ai accès aux bandes vidéo DD Sports là, de U-Sport. Donc, ouais. J'ai accès à tous les matchs au Canada. Et j'essaie toujours de regarder les deux équipes qu'on va affronter. Un, pour voir les tendances, mais aussi pour reconnaître un peu leur façon de faire, reconnaître leurs joueurs. Donc, je vais regarder du vidéo, probablement 2-3 heures de vidéo. C'est rien comparé au coach, là, mais tu sais, je garde cette approche-là. Je me fais des depth charts complets là, sur des feuilles 11-17, là, des gigafeuilles. J'en ai 4, dans le fond, l'attaque d'une université, la défense là, de l'autre. Justement, je construis des depth charts avec numéro, nom, provenance, gabarit, âge, programme universitaire, stats. Fait qu'à chaque semaine, je vais mettre ça à jour, puis je vais les positionner parce qu'on reçoit les depth charts la veille sous embargo.
Mm-hmm.
Donc, on reçoit les depth charts avant tout le monde, dans le fond, pour vraiment savoir qui joue pas. Puis avec les statistiques du RSEQ, à chaque vendredi, jeudi ou vendredi, je vais parler souvent aux deux entraîneurs-chefs ou à deux coordonnateurs des deux équipes en fonction des notes. Tu sais que je prends des notes quand j'écoute du vidéo. Pardon. Fait que moi, personnellement, c'est un peu comme ça. Je construis mon alignement pour le week-end. On a une rencontre à chaque mardi en équipe où est-ce que, bon, c'est quoi les enjeux à surveiller, c'est quoi les angles, quels sont nos invités, est-ce qu'on va rencontrer un joueur, préparer un topo qu'on va présenter à la mi-temps, c'est quoi les éléments techniques, parce que c'est énorme là, la technique. Tu sais, dans le fond, les stades de foot, là, ils sont nus avant qu'on arrive. Là, c'est pas comme, par exemple, le Centre Bell. Il y a des kilomètres et des kilomètres de fil qui sont installés la veille. Là, les caméramans, les techniciens, ils déroulent du fil pour que la fibre optique, pour que le son, pour que les caméras se rendent. Donc, on construit comme pas un stade de foot, mais on construit un stade télévisé. Alors que dans la NFL, là, chaque stade est construit comme le Centre Bell pour la LNH. Mm-hmm. Est construit avec toute la technologie intégrée. Donc, il y a toute cette préparation-là aussi technique la veille. On arrive les jours de match 3 heures avant environ. On a une autre rencontre de production. Puis ensuite, il y a des entrevues avec les coachs. Moi, je vais jaser avec les entraîneurs sur le terrain là, pour avoir les dernières informations, les derniers joueurs blessés. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment... On prépare un match comme les équipes peuvent préparer leur match. Tu sais.
Ouais, non, exact. Sérieusement, vous vous préparez, c'est impressionnant de voir ça, sérieusement. C'est. Ben, tu sais, pour faire de quoi être professionnel, il faut être bien préparé aussi. Puis, tu sais, c'est bien fait. Fait que c'est le fun de voir ça, mais tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vrai que c'est cool de voir ça. Par curiosité, pour toi, ça représente quoi de. Tu sais, d'annoncer justement les matchs universitaires au Québec?
Ben, moi, je suis privilégié, puis. Je le fais encore 12 ans plus tard ou même 15 ans plus tard parce que ma première saison à la télé, c'était en 2011. Donc, 15 ans plus tard, je le fais avec la même passion. Je me pose toujours la question en début de saison, est-ce que est-ce que je suis encore autant motivé? Parce que, tu sais, faire le match en soi à la télé, c'est le fun. Mm-hmm. Mais, tu sais, passer des heures et des heures sur Google à rentrer un nom d'un jeune puis à savoir que, OK, sa mère est allée aux Olympiques ou, tu sais, sa grand-mère est impliquée. Là, parce que j'essaie de trouver des informations parce que, mm-hmm. tu sais, quand tu parles d'Ivan Demidov, tout le monde le connaît. Mais, tu sais, quand tu nommes un joueur universitaire, la réalité, c'est que le monde du foot le connaît. Mais la personne qui décide de syntoniser le match de foot ne le connaît pas, puis c'est correct ainsi. Il faut présenter, il faut raconter une histoire. Tu ne peux pas simplement parler des numéros et des noms. Tu construises une histoire, puis des histoires dans le foot universitaire, il y en a tellement. T'sais, des histoires de résilience, des histoires de performance académique, de combiner les deux. Il faut les trouver, ces histoires-là. Fait que, à chaque début de saison, je me pose la question, est-ce que j'ai encore envie de faire le grind nécessaire pour être prêt, puis pour avoir des belles histoires, puis à chaque année, ben, la réponse me vient facilement. Fait que je suis super content. Je suis vraiment privilégié de faire ça. Puis, je te ramène à la grand-maman d'un joueur. T'sais. Peut-être que pour elle et sa famille, ça va être la seule fois, la première fois qu'on va parler de leur famille à la télé.
Exact.
Ça peut être un moment important pour eux. Puis, mm-hmm. une fierté incroyable pour une grand-maman, pour une mère, un père, un oncle, d'entendre parler son jeune, de sa famille, de son nom de famille, de l'histoire familiale. Fait que moi, pouvoir mettre ça en lumière, ben, je trouve ça vraiment beau, puis je suis privilégié de le faire.
Mm-hmm. Non, sérieusement, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est vrai qu'on n'en parle pas, c'est moins mis de l'avant, c'est sûr, tu sais, c'est complètement différent, tu sais, mais je pense que ça se développe, tu sais, tranquillement, on en entend plus de parler, puis tu sais, si on parle, mettons, plus côté télé, mais après ça, si tu regardes les programmes individuels, ils ont commencé à essayer de développer vraiment plus leur image de marque, puis
ouais.
de s'afficher, mais c'est vraiment cool. Puis je pense que l'approche que tu as, c'est vraiment la bonne. T'sais, mettons, moi, je m'en mets en perspective. Moi, une des raisons qui me fait arrêter le football, c'est... T'sais, j'en ai deux principales, mais une de ces deux-là, c'est la côté. T'sais, est-ce que... La question que je me suis demandé, comme toi, tu sais, on aime tout ça aller jouer le match le samedi, là.
Mm-hmm.
Mais est-ce que c'est le temps que tu veux mettre après ça dans la préparation? Est-ce que ça te tente encore de le faire? Puis tu sais, après ça, si tu commences à le faire à 50%, bien rendu là, c'est plate pour toi, mais c'est parce que ça joue ses autres gars aussi. Faut pas que tu oublies mm-hmm. ça. Fait.
Ouais.
Mais je trouve ça cool comment tu l'amènes. Vraiment, c'est vraiment cool parce que tu vois, j'étais capable de relate à ce que tu dis. Mm-hmm.
Ben, tu sais, puis je le fais à ce niveau-là parce que je veux le faire, mais je suis chanceux, mais surtout les étudiants athlètes et les universités sont chanceuses d'avoir mon collègue comme descripteur, tu sais, parce que Denis Cazavant, pour moi, bon, on va avoir le débat, mais pour moi, c'est le meilleur descripteur sportif au Québec. Là. Mm-hmm. Denis Cazavant, il peut autant faire les séries mondiales,
c'est vrai qu'il est très bon.
Un match de la LNH, un match de foot professionnel. Puis Denis Cazavant, il n'a pas besoin le samedi matin de prendre son camion, de partir, il reste dans Laurentides, puis de s'en aller à Sherbrooke pour décrire un match de football universitaire. T'sais, on s'entend, il est rendu à un point de sa carrière, mais il le fait par passion, il le fait parce qu'il adore le sport. Puis j'espère que les programmes, et les jeunes, peut-être les jeunes le connaissent moins, mais comprennent à quel point ils sont choyés d'avoir une des meilleures, sinon la meilleure voix, qui amène une rigueur incroyable, parce que lui aussi, il respecte le produit, veut justement mettre en valeur puis en lumière, c'est différent. Fait, tout ça pour dire que moi aussi, c'est la moindre des choses qu'aux côtés d'un mentor exceptionnel, je livre, j'amène le même niveau de préparation puis d'intensité. Puis au final, c'est les jeunes qui en bénéficient, je pense. Mais surtout, c'est le sport parce que quand tu penses à ça, là, au Québec, outre les Jeux olympiques, là, le football universitaire, c'est le seul sport amateur qui est vraiment à la télé. C'est vraiment un autre sport amateur là, qui a une diffusion à chaque week-end. Puis on le voit aussi dans le reste du Canada, il n'y a pas de diffusion de football universitaire. Donc,
ah oui, je ne savais pas ça.
Ben, il y en a ici et là, des fois dans les matchs de la Coupe Vanier en demi-finale nationale, mais les autres provinces n'ont pas une structure télévisuelle aussi solide que la nôtre. Puis les autres sports au Québec non plus. T'sais, même la LHJMQ, qui peut être vue parfois comme un peu le penchant, là, la LHJMQ, c'est plus vraiment à la télé. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que c'est un beau produit et les gens l'apprécient parce que ça reste une business, là, entre toi et moi. Là, on voudrait avoir toutes les meilleures intentions. Si tu n'as pas de code d'écoute, si tu ne vends pas de pub, ben, tu ne dépenseras pas des dizaines de milliers de dollars. Ça coûte cher de produire un match de foot universitaire. Ouais. Là, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars à chaque fois. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui revienne. C'est une business, là.
Non, exact. Non, 100%, t'as entièrement raison, mais c'est vrai que... T'sais, c'est quand on met les chiffres là-dessus que tu dis, Colin, c'est vrai qu'on y pense pas, mais ça coûte cher. Là. T'sais, la dernière fois que TVA Sport était au Vert et Or contre McGill, je pense. Je me promenais, là, puis je voyais les caméramans, puis les fils, tout ça. Il y en a tellement. Puis tu parlais, t'sais, ça coûte cher, ça, tout ça, déplacer l'équipement, tout ça, l'installer. Vraiment.
T'sais, les gens aiment ça souvent dire pourquoi qu'on fait pas, pourquoi TVA ne présente pas tous les matchs de foot, puis ça n'a pas de bon sens, puis. Il y a une saison, on l'a fait. On a présenté deux matchs de foot par week-end. Deux matchs de foot, ben, c'est deux installations, c'est deux fois plus de caméramans, deux fois plus de preneurs de son. C'est deux camions mobiles. Vous avez peut-être déjà vu les camions mobiles là, qui sont amenés sur les lieux d'un match sportif. Le camion, là, ça vaut des millions en technologie parce que c'est le centre de transmission, c'est des écrans. Ben, quand on a présenté les deux matchs, ben, ça fonctionnait moins bien parce que les gens ont un appétit pour le foot universitaire, mais peut-être un match par semaine. T'sais, le week-end à l'automne, il y a mille et un projets. Vider la piscine, vendre les feuilles, aller aux pommes, profiter du soleil. Ils sont là pour un match de foot universitaire, par contre. Donc, quand on en présente un par week-end, ben, ça devient quand même rentable parce qu'encore une fois, dans la vie, c'est pas juste du bénévolat. Il y a des entreprises derrière tout ça. Mais deux, ça devenait un peu moins rentable parce qu'il y avait peut-être moins d'appétit pour regarder deux matchs de foot. Donc, en tout cas, souvent, je l'entends circuler. Mais pourquoi ça n'a pas de bon sens de ne pas faire deux matchs? Ah, ben, il y a quand même des gens qui réfléchissent à tout ça et qui comptent ce que ça vaut et ce que ça coûte de présenter un match de foot.
Non, exact. Puis, tu sais, en même temps, c'est les gens qui sont là pour le match, mettons pour TVA, ben, ils sont là pour. En fait, ils vont être là à 100%. T'sais, ils ne seront pas déconcentrés ou whatever. Ils vont être vraiment là. Fait que c'est là que ça crée un produit. Un service qui fait vraiment du sens. Vraiment cool. On dit souvent que la RSEQ, c'est une ligue à deux équipes. Okay? Le rôle et l'impact du football universitaire au Québec, on en parle là, ça quand même. Les gens sont intéressés, les gens aiment ça. J'aimerais t'entendre là-dessus, avec la vision que tu as en tant que chroniqueur, quelqu'un qui suit ça depuis très longtemps, qui a joué au sport. Comment toi, tu as vu ou tu vois l'évolution de notre sport?
Ben, ces deux programmes-là dominent le sport. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Puis, tu sais, depuis quoi, 2002 ou 2001, les Coupes Dunsmore se sont alternées entre Québec et Montréal parce qu'ils ont fait les choses de la bonne façon, parce qu'ils ont décidé de casser le moule, parce qu'ils ont décidé de oser. Ils ont vu le potentiel pour une université, pour une ville. Il y a quand même des situations géographiques qui aident les deux. On s'entend qu'à Québec, on a quand même une grosse population, un milieu des affaires qui a une soif, un appétit pour encourager le sport. D'ailleurs, les Remparts remplissent la bâtisse presque à chaque fois aussi parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions sportives. Ça, c'est les deux. Donc, il y a quand même un contexte sportif. L'Université de Montréal est allée chercher justement le marché montréalais. Ce sont des grandes et des grosses universités qui ont des dizaines de milliers d'étudiants, qui ont des anciens aussi qui sont capables de s'impliquer. Donc, c'est clair qu'ils ont cassé le modèle pour le mieux et qui ont forcé tout le monde à s'améliorer. Puis, au final, quand tout le monde décide d'investir plus dans le sport étudiant et le sport amateur, ben, c'est la société qui en gagne. Fait que jamais je vais remettre en doute ce que ces deux universités-là ont fait parce qu'on a décidé d'embaucher plus de coachs. En développant du meilleur football, ben, ça fait des petits. Il y a eu plus de programmes collégiaux, plus de programmes juvéniles, donc plus de jeunes qui ont la possibilité de bouger, plus d'adultes qui sont employés à temps plein comme pédagogues. Donc, tu sais, ils ont créé un système exceptionnel. Il faut le reconnaître, là, ça a changé la façon de faire du foot au Québec pour les 100 prochaines années. Ça a mis les autres universités dans des situations quand même complexes, simplement parce que, ben, c'est sûr que quand tu partages un marché anglophone à Montréal, dans une énorme ville qui a une compétition sportive, et que tu as des modèles qui sont ancrés dans des façons de faire peut-être... différents, les deux universités anglophones, où est-ce que le corporatif faisait moins partie de la façon de faire. Lorsque tu as des universités qui prennent peut-être plus de temps à bouger, notamment McGill avec des assises académiques internationales, comme on a mentionné plus tôt, c'est clair que tu branles les colonnes du temps. Donc, ça a été plus long. Mais tu vois, on voit une progression qui est quand même intéressante. Ces universités-là ont maintenant 4, 5, 6, 7 coachs à temps plein, ont des systèmes de promotion qui sont bien meilleurs qu'avant. Ils sont au niveau des autres universités? Non. Mais il y a des contextes là-dedans. Tu sais, on voit Bishop qui à un moment donné n'était pas capable de suivre de par sa structure, de par le nombre d'étudiants, de par le bassin de population qui les entourait. Tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas créer une population de 700 000 habitants.
Effectivement.
Donc, tu sais, il y a la puissance des deux plus gros, mais il y a aussi un contexte qui a favorisé une croissance plus vite des Carabins puis du Rouge-et-Or. Tu sais, au final, d'être la référence à chaque année dans le monde du football canadien, tant mieux. T'sais, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Tu veux faire rayonner le Québec, tu veux faire rayonner tes athlètes, puis tu veux aussi, puis c'est un autre élément, tu veux convaincre des gars d'aller à l'université qui seraient jamais allés à l'université, là. T'en as
Effectivement.
côtoyé, j'en ai côtoyé, ça change des vies, là. C'est-tu 15-20% d'un roster qui serait jamais, jamais allé à l'université, peut-être même pas au cégep. T'sais, tu formes, oui, ta relève sportive, mais tu formes ta relève sociétal. Fait que là, tu donnes des diplômes, tu donnes des expériences de vie à des jeunes qui n'auraient jamais pu espérer faire ça. Ben, tant mieux s'il y a de plus en plus de jeunes qui voient le football rayonner, qui se disent, hey, moi, c'est ce que je veux faire. Puis, ben, pour faire ça, j'aurais pas le choix de me forcer, j'aurais pas le choix d'avoir des notes, j'aurais pas le choix d'aller à l'université. Moi, je vois que du bon à ce gros mouvement-là depuis maintenant 30 ans.
Je suis 100% d'accord. Ça force les universités qui ne sont pas Laval et Montréal à justement essayer de prendre le pas, à essayer de continuer à évoluer leurs produits. Puis, tu sais, il y a juste du bon à avoir la grosse compétition comme ça, tu sais. C'est intéressant. Puis aussi, promener ces athlètes, comme j'aime ça poser cette question-là à la majorité des joueurs que j'ai invités sur le podcast, c'est est-ce que. Ben, est-ce que sans le sport, tu arriverais vraiment à continuer tes études? Tu serais-tu allé au bout? Puis la plupart du temps, c'est non, tu sais. Les gars, ils ont de la misère, mais le sport était là. Pourquoi pas continuer? Donc, puis tu l'as dit, tu sais, peu importe le bac qu'ils font, peu importe les études qu'ils décident d'aller faire, ben écoute, au moins ils vont l'avoir fait. Puis ils vont avoir grandi dans une organisation. Ça va leur avoir permis à peut-être avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie que si. Il avait décidé d'arrêter ou juste jamais pratiqué le foot, puis il avait lâché l'école, tu sais.
Ben, tu sais, il y a quoi, 3%, 2-3% qui vont jouer pro.
C'est
Puis de
ça.
ce 2-3%-là, il y en a peut-être 2-3% qui vont signer un deuxième contrat, puis commencer à faire un peu de sous intéressant. Fait que là, le 97 autres pourcents, qu'est-ce qu'il y a en échange? Ben, si bien fait les choses, il y a un diplôme, il y a une carrière, il y a des outils pour changer sa vie, changer la vie de sa famille. C'est énorme, là, ça, pour une société. Tu sais, tu comprends?
Exact.
Je vais te proposer là, que tu sur 100 joueurs fois 5 universités, pour faire un chiffron 500, là, ben, je vais te donner 400 nouveaux diplômés universitaires qui, dans bien des cas, viennent de strates de la société qui étaient peut-être moins enclins à faire des études avancées. Je vais dire, hey, je t'offre ça comme société, je t'offre ça en cadeau. Écoute, c'est énorme ce que ça représente comme valeur. C'est des gens qui vont devenir des leaders dans leur communauté, qui vont devenir des gestionnaires aguerris. Moi, je trouve que ça, c'est un élément qu'il faut que soit encore plus mis de l'avant.
100%, je suis 100% d'accord avec toi. En finissant, Charles-Antoine, j'aimerais te laisser le micro. Est-ce que tu aurais un message à passer, peut-être aux étudiants athlètes de notre prochaine génération qui, peu importe leur objectif, juste, qu'est-ce que toi tu leur dirais?
Je pense que l'élément qui est souvent omis ou oublié parce qu'il n'est pas encore maîtrisé par les étudiants athlètes de cet âge-là, c'est de développer la capacité d'apprendre à apprendre et à se rendre compte de ce qu'on est outre le sport. On a tendance à faire ce qu'on nous dit de faire, puis c'est parfait, ça fait partie de l'expérience de vie, mais essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. Et essayer de se prendre un pas de recul et dire, qu'est-ce que j'ai de plus à offrir que d'être simplement un athlète? Les expériences de vie, les expériences sportives, les expériences humaines que tu développes dans un vestiaire sont incomparables.
Les gens que tu vas
Donc,
rencontrer.
les gens que tu vas rencontrer, le réseau de contacts, les liens que tu vas te créer, les aptitudes humaines, le fait d'être capable de t'adapter à différentes personnes, à différentes personnalités, à différents backgrounds. Le fait que tu es capable de travailler en équipe, de travailler ensemble, de tirer dans la même direction, ça fait toute la différence dans l'étape suivante. Parce que quand on est dans le monde du foot, là, on ne pense qu'à notre carrière de foot. puis on ne voit que le présent. Mais quand tu arrives vers la fin, là, c'est de regarder un petit peu en arrière, puis dis, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Oui, j'ai appris à battre du man-to-man dans un tracé. Oui, j'ai appris à déceler de la zone. Oui, j'ai appris à exercer de la pression. Mais j'ai aussi appris des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus humaines, qui vont être tellement mises à contribution pour les années subséquentes. Donc, c'est de prendre un pas de recul et de réfléchir à ce qu'on est, pas seulement comme joueur de foot, mais comme jeune adulte, et de se rendre compte qu'on a beaucoup, beaucoup à offrir à la prochaine personne qui va nous prendre dans son équipe ou dans son entreprise.
Merci beaucoup, Jean-Antoine. C'était un plaisir d'avoir pris un petit moment en début d'après-midi pour jaser avec toi. Sérieusement, vraiment smart. J'apprécie énormément. Vraiment, c'est vraiment cool, man. Sérieusement, que tu aies pris le temps. Puis continue à faire ce que tu fais. J'admire énormément. Moi, je manque pas les matchs à TVA. Sinon, je suis présent au match. j'adore ça. J'adore ça. Continue à vous suivre. Tout ça. Merci, sérieusement.
Merci de l'invitation. Puis je te retourne le compliment. Continue à faire rayonner les belles histoires dans ton sport.
Merci, man.